En présentant au public ses recherches, Hérodote d'Halicarnasse se propose de préserver de l'oubli les actions des hommes, de célébrer les grandes et merveilleuses actions des Grecs et des barbares, et, indépendamment de toutes ces choses, de développer les motifs qui les portèrent à se faire la guerre. Les Perses les plus savants dans l'histoire de leur pays attribuent aux Phéniciens la cause de cette inimitié. Ils disent que, ceux-ci étant venus des bords de la mer Érythrée sur les côtes de la nôtre, ils entreprirent de longs voyages sur mer, aussitôt après s'être établis dans le pays qu'ils habitent encore aujourd'hui, et qu'ils transportèrent des marchandises d'Égypte et d'Assyrie en diverses contrées, entre autres à Argos. Cette ville surpassait alors toutes celles du pays connu actuellement sous le nom de Grèce. Ils ajoutent que les Phéniciens y étant abordés se mirent à vendre leurs marchandises. Que 5 ou 6 jours après leur arrivée, la vente étant presque terminée, un grand nombre de femmes se rendit sur le rivage, et parmi elles la fille du roi. Que cette princesse, fille d'Inachus, s'appelait Io, nom que lui donnent aussi les Grecs. Tandis que ces femmes, continuent les mêmes historiens, achetaient près de la poupe ce qui était le plus de leur goût, les Phéniciens, s'animant les uns les autres, se jetèrent sur elles. La plupart prirent la fuite, mais Io fut enlevée, et d'autres femmes avec elle. Les Phéniciens, les ayant fait embarquer, mirent à la voile et firent route vers l'Égypte. Voilà, selon les Perses, en cela peu d'accord avec les Phéniciens, comment Io passa en Égypte. Voilà le principe des injustices réciproques qui éclatèrent entre eux et les Grecs. Ils ajoutent qu'ensuite quelques Grecs, ils ne peuvent les nommer, c'était peut-être des Crétois, abordés à Tyr en Phénicie, enlevèrent Europe, fille du roi. C'était sans doute usé du droit de représailles. Mais la seconde injustice ne doit, selon les mêmes historiens, être imputée qu'aux Grecs. Ils disent que ceux-ci se rendirent sur un vaisseau long à Aéa, en Colchide, sur le Phase, et qu'après avoir terminé les affaires qui leur avaient fait entreprendre ce voyage, ils enlevèrent Médée, fille du roi. Que ce prince, ayant envoyé un ambassadeur en grec pour redemander sa fille et exiger réparation de cette injure, les Grecs lui répondirent que, puisque les Colchidiens n'avaient donné aucune satisfaction de l'enlèvement d'Io, ils ne lui en feraient point de celui de Médée. Les mêmes historiens disent aussi que, la seconde génération après ce rapt, Alexandre, fils de Priam, qui en avait entendu parler, voulut par ce même moyen se procurer une femme grecque, bien persuadé que les autres n'ayant point été punis, ils ne le seraient pas non plus. Il enleva donc Hélène. Mais les Grecs, continuent-ils, s'étant assemblés, furent d'avis d'envoyer d'abord les ambassadeurs pour demander cette princesse et une réparation de cette insulte. À cette proposition, les Troyens opposèrent aux Grecs l'enlèvement de Médée, leur reprochèrent d'exiger une satisfaction, quoiqu'ils n'en eussent fait aucune, et qu'ils n'eussent point rendu cette princesse après en avoir été sommés. Jusque-là, disent les Perses, il n'y avait eu de part et d'autre que des enlèvements. Mais depuis cette époque, les Grecs se mirent tout à fait dans leur tort en portant la guerre en Asie avant que les Asiatiques l'eussent déclarée à l'Europe. Or, s'il y a de la justice, ajoute-t-il, à enlever des femmes, il y a de la folie à se venger d'un rapt, et de la sagesse à ne pas se mettre en peine. Puisqu'il est évident que, sans leur consentement, on ne les eût pas enlevés. Les Perses assurent que, quoi qu'ils soient asiatiques, ils n'ont tenu aucun compte des femmes enlevées dans cette partie du monde. Tandis que les Grecs, pour une femme de Lacédémone, équipèrent une flotte nombreuse, passèrent en Asie et renversèrent le royaume de Priam. Depuis cette époque, les Perses ont toujours regardé les Grecs comme leurs ennemis, car ils s'arrogent l'empire sur l'Asie et sur les nations barbares qui l'habitent, et considèrent l'Europe et la Grèce comme un continent à part. Telle est la manière dont les Perses rapportent ces événements. Et c'est à la prise d'Ilion qu'ils attribuent la cause de la haine qu'ils portent aux Grecs. À l'égard d'Io, les Phéniciens ne sont pas d'accord avec les Perses. Ils disent que ce ne fut pas par un enlèvement qu'ils l'amenèrent en Égypte, qu'il y a eu commerce à Argos avec le capitaine du navire quand elle se vit grosse, la crainte de ses parents la détermina à s'embarquer avec les Phéniciens pour cacher son déshonneur. Tels sont les récits des Perses et des Phéniciens. Pour moi, je ne prétends point décider si les choses se sont passées de cette manière ou d'une autre. Mais après avoir indiqué celui que je connais pour le premier auteur des injures faites aux Grecs, je poursuivrai mon récit qui embrassera les petits états comme les grands. Car ceux qui fleurissaient autrefois sont la plupart réduits à rien, et ceux qui fleurissent de nos jours étaient jadis peu de choses. Persuadé de la stabilité du bonheur des hommes, je me suis déterminé à parler également des uns et des autres. Crésus étant lydien de naissance, fils d'Aliate et tyran des nations que renferme la Lys dans son cours. Ce fleuve coule du sud, passe entre les pays des Syriens, Cappadociens, et celui des Paphlagoniens, et se jette au nord dans le pont d'Euxin. Ce prince est le premier barbare, que je sache, qui ait forcé une partie des Grecs à lui payer tribut, et qui se soit allié avec l'autre. Il subjugua en effet les Ioniens, les Éoliens et les Doriens établis en Asie et fit alliance avec les Lacédémoniens. Avant son règne, tous les Grecs étaient libres, car l'expédition des Cimériens contre l'Ionie, antérieure à Crésus, n'alla pas jusqu'à ruiner les villes. Ce ne fut qu'une incursion suivie de pillages. Voici comment la souveraine puissance qui appartenait aux Héraclides passa en la maison des Mermnades, dont était Crésus. Candole, que les Grecs appellent Myrcile, fut tyran de Sardes. Il descendait d'Hercule Paralcée, fils de ce héros. Caragron, fils de Ninus, petit-fils de Bélus, arrière-petit-fils d'Alcée, fut le premier des Héraclides qui régna à Sardes. Et Candole, fils de Myrsus, fut le dernier. Les rois de ce pays antérieur à Agron descendaient de Lydus, fils d'Atys, qui donna le nom de Lydien à tous les peuples de cette contrée qu'on appelait auparavant Méoniens. Enfin, les Héraclides à qui ces princes avaient confié l'administration du gouvernement et qui tiraient leur origine d'Hercule et d'une esclave de Jardanus, obtinrent la royauté en vertu d'un oracle. Ils régnèrent de père en fils 505 ans, en 15 générations, jusqu'à Candole, fils de Myrsus. Ce prince aimait éperdument sa femme et la regardait comme la plus belle des femmes. Obsédé par sa passion, il ne cessait d'en exagérer la beauté à Agigès, fils de Dacilus, un de ses gardes, qu'il aimait beaucoup et à qui il communiquait ses affaires les plus importantes. Peu d'un temps après, Candole, il ne pouvait éviter son malheur, tint à Agigès ce discours. « Il me semble que tu ne me crois pas sur la beauté de ma femme. Les oreilles sont moins crédules que les yeux. Fais donc ton possible pour la voir nue. » « Quel langage insensé, seigneur !» s'écria Agigès. « Y avez-vous réfléchi? Ordonnez à un esclave de voir nu sa souveraine? Oubliez-vous qu'une femme dépose sa pudeur avec ses vêtements? Les maximes de l'honnêteté sont connues depuis longtemps. Elles doivent nous servir de règles. Or, une des plus importantes est que chacun ne doit regarder que ce qui lui appartient. Je suis persuadé que vous avez la plus belle de toutes les femmes. Mais n'exigez pas de moi, je vous en conjure, une chose malhonnête. » Ainsi, Agigès se refusait à la proposition du roi, en craignant les suites pour lui-même. « Rassure-toi, Agigès, lui dit Candole, on ne craint ni ton roi, ce discours n'est point un piège pour t'éprouver, ni la reine, elle ne te fera aucun mal. Je m'y prendrai de manière qu'elle ne saura pas même que tu l'aies vue. Je te placerai dans la chambre où nous couchons, derrière la porte qui restera ouverte. La reine ne tardera pas à me suivre. À l'entrée est un siège où elle pose ses vêtements à mesure qu'elle s'en dépouille. Ainsi, tu auras tout le loisir de la considérer. » Lorsque de ce siège elle s'avancera vers le lit, comme elle te tournera le dos, saisis ce moment pour t'esquiver sans qu'elle te voie. Guyès ne pouvait plus se refuser aux instances du roi. Il se tint prêt à obéir. Candole, à l'heure du coucher, le mena dans sa chambre où la reine ne tarda pas à se rendre. Guyès la regarda se déshabiller et, tandis qu'elle tournait le dos pour gagner le lit, il se glissa hors de l'appartement. Mais la reine l'aperçut en sortant. Elle ne douta point que son mari ne fût l'auteur de cet outrage. La pudeur l'empêcha de crier, et même elle fit semblant de ne l'avoir pas remarqué, ayant déjà conçu dans le fond du cœur le désir de se venger de Candole. Car chez les Lydiens, comme chez presque tout le reste des nations barbares, c'est un opprobre même à un homme de paraître nu. La reine demeura donc tranquille et sans rien découvrir de ce qui se passait dans son âme. Mais, dès que le jour parut, elle s'assure des dispositions de ses plus fidèles officiers et monde Agigès. Bien éloignée de la croire instruite, il se rend à son ordre comme il était dans l'habitude de le faire toutes les fois qu'elle le demandait. Lorsqu'il fut arrivé, cette princesse lui dit « Agigès, voici deux routes dont je te laisse le choix. Décide-toi sur le champ. Obtiens par le maître de Candole ma main et le trône de Lydie, ou une prompte mort t'empêchera désormais de voir, par une aveugle déférence pour Candole, ce qui t'est interdit. Il faut que l'un des deux périsse, ou toi qui, bravant l'honnêteté, m'a vu sans vêtements, ou du moins celui qui t'a donné ce conseil. » À ce discours, Agigès demeura quelque temps interdit. Puis, il conjura la reine de ne point le réduire à nécessité d'un tel choix. Voyant qu'il ne pouvait la persuader et qu'il fallait absolument ou tuer son maître ou se résoudre lui-même à périr, il préféra sa propre conservation. « Puisque, malgré mes réclamations, dit-il à la reine, vous me forcez à tuer mon maître, je suis prêt à prendre les moyens d'y réussir. Le lieu de l'embuscade, répondit-elle, sera celui même d'où il m'a exposé nu à tes regards, et le temps de l'attaque sera celui de son sommeil. » Ces mesures prises, elle retint Agigès. Nul moyen pour lui de s'échapper. Il fallait qu'il périt, lui ou Candole. À l'entrée de la nuit, elle l'introduit dans la chambre. L'arme d'un poignard et le cache derrière la porte. À peine Candole était endormie, Agigès avance sans bruit, le poignarde, s'empare de son épouse et de son trône. Archilogue de Paros, qui vivait en ce temps-là, fait mention de ce prince dans une pièce qu'il a composée en vers iambe trimètre. Agigès étant monté de la sorte sur le trône, il y fut affermi par l'oracle de Delphes. Les Lydiens, indignés de la mort de Candole, avaient pris les armes. Mais ils convinrent avec les partisans de Gyges que, si l'oracle le reconnaissait pour roi de Lydie, la couronne lui resterait. Qu'autrement, elle retournerait aux Héraclides. L'oracle prononça, et le trône fut par ce moyen assuré à Gyges. Mais la pitié ajouta que les Héraclides seraient vengés sur le cinquième descendant de ce prince. Ni les Lydiens ni leur roi ne tinrent aucun compte de cette réponse avant qu'elle ait été justifiée par l'événement. Ce fut ainsi que les Mermnades s'emparèrent de la couronne et qu'ils l'enlevèrent aux Héraclides. Gyges, maître de la Lydie, envoya beaucoup d'offrandes à Delphes, dont une très grande partie était en argent. Il y ajouta quantité de vases d'or et entre autres 6 cratères d'or du poids de 30 talents, présents dont la mémoire mérite surtout d'être conservée. Ces offrandes sont dans le trésor des Corinthiens. Quoique, à vrai dire, ce trésor ne soit point à la République de Corinthe, mais à Cypselus, fils d'Éétion. Gyges est, après Midas, fils de Gordius, roi de Phrygie, le premier des barbares que nous connaissions qui ait envoyé des offrandes à Delphes. Midas avait fait présent à ce temple du trône sur lequel il avait coutume de rendre la justice. Cet ouvrage mérite d'être vu. Il est placé dans le même endroit où sont les cratères de Gyges. Au reste, les habitants de Delphes appellent ces offrandes en or et en argent Gygadas, du nom de celui qui les a faites. Lorsque ce prince se vit maître du royaume, il entreprit une expédition contre les villes de Mylée et de Smyrne et prit celle de Colophon. Mais comme il ne fit rien autre chose de mémorable pendant un règne de 38 ans, nous nous contenterons d'avoir rapporté ces faits et n'en parlerons pas davantage. Passons à son fils Ardys. Ce prince lui succéda. Il subjugua ceux de Prienne et entra avec une armée dans le territoire de Mylée. Sous son règne, les Cimériens chassés de leur pays par les Scythes nomades vinrent en Asie et prirent Sardes, excepté la citadelle. Ardys régna 49 ans et eut pour successeur Sadiat, son fils qui en régna 12. Aliat succéda à Sadiat. Il fit la guerre aux Mèdes et à Siaxar, petit-fils de Déjocès. Ce fut lui qui chassa les Cimériens de l'Asie. Il prit la ville de Smyrne, colonie de Colophon. Il entreprit aussi une expédition contre Clazomène, de devant laquelle il se retira, non comme il le voulut, mais après avoir reçu un échec considérable. Il fit encore, durant son règne, d'autres actions dont je vais rapporter les plus mémorables. Son père, lui ayant laissé la guerre contre les Milésiens, il la continua et attaqua Mylée de la manière que je vais dire. Lorsque la terre était couverte de graines et de fruits, il se mettait en campagne. Son armée marchait au son du chalumeau, de la harpe et des flûtes masculines et féminines. Quand il était arrivé sur les terres des Milésiens, il défendait d'abattre les métairies, d'y mettre le feu et d'en arracher les portes. Il les laissait subsister dans l'état où elles étaient, mais il faisait le dégât dans le pays, coupait les arbres, ravageait les blés. Après quoi il s'en retournait sans assiéger la place. Entreprise qui lui était inutile, les Milésiens étant maîtres de la mer. Quant aux maisons, Aliat ne les faisait pas abattre afin que les Milésiens, ayant toujours où se loger, continuassent à ensemencer et à cultiver leurs terres, et qu'il eût de quoi piller et ravager lorsqu'ils reviendraient dans leur pays. Il leur fit de cette manière 11 ans la guerre, pendant lesquels les Milésiens essuyèrent 2 échecs considérables. L'un à la bataille qu'ils donnèrent dans leur pays, en un endroit appelé Liménéion, l'autre dans la plaine de Méandre. Des 12 années qu'elle dura, les 6 premières appartiennent au règne de Sadiat, fils d'Ardys, qui, dans ce temps-là, régnait encore en Lydie. Ce fut lui qui l'alluma, et qui entra alors à la tête d'une armée dans le pays de Mylée. Aliat poussa avec vigueur les 5 années suivantes la guerre que son père lui avait laissée, comme on l'a rapporté un peu plus haut. De tous les Ioniens, il n'y eut que ceux de Chios qui secoururent les habitants de Mylée. Ils leur envoyèrent des troupes en reconnaissance des secours qu'ils en avaient reçus dans la guerre qu'ils avaient eu à soutenir contre les Érythréens. Enfin, la 12e année, l'armée d'Aliat ayant mis le feu au blé, il arriva que la flamme, poussée par un vent violent, se communiqua au temple de Minerve, surnommé Acécienne, et le réduisit en cendres. On ne fit d'abord aucune attention à cet accident. Mais Aliat, de retour à Sardes avec son armée, étant tombé malade, et sa maladie traînant en longueur, il envoya à Delphes des députés pour consulter le dieu sur sa maladie, soit qu'il eût pris cette résolution de lui-même, soit qu'elle lui eût été suggérée. Ses envoyés étant arrivés à Delphes, La pitié leur dit qu'elle ne leur rendrait point de réponse, qu'ils n'eussent relevé le temple des Minerves qu'ils avaient brûlé à Assessos, dans le pays des Milésiens. J'ai ouï dire aux habitants de Delphes que la chose s'était passée de la sorte. Mais les Milésiens, ajoutant que Préandre, fils de Cypselus, intime ami de Tribule, tyran de Milet, sur la nouvelle de l'oracle rendu à Aliate, envoya un courrier à Thrasybule afin qu'instruit d'avance de la réponse du dieu, il prit les mesures relatives aux conjonctures. Aliate n'eut pas plutôt reçu cet oracle qu'il envoya un héros à Millet pour construire une trêve avec Thrasybule et les Milésiens, jusqu'à ce qu'on eût rebâti le temple. Pendant que le héros était en chemin pour se rendre à Millet, Thrasybule, bien informé de tout et qui n'ignorait point les desseins d'Aliate, s'avisa de cette ruse. Tout le blé qu'on put trouver à Millet, tant dans ses greniers que dans ceux des particuliers, il le fit apporter sur la place publique. Il commanda ensuite aux Milésiens de se livrer au plaisir de la table, au signal qu'il leur donnerait. Thrasybule publia ses ordres, afin que le héros, voyant un si grand amas de blé, et que les habitants ne songeaient qu'à leur plaisir, en rendit compte à Aliate, ce qui n'en manqua pas d'arriver. Le héros, témoin de l'abondance qui régnait à Millet, s'en retourna à Sardes, aussitôt qu'il eut communiqué à Thrasybule les ordres qu'il avait reçus du roi de Lydie. Et ce fut là, comme je l'ai appris, la seule cause qui rétablit la paix entre ces deux princes. Aliate s'était persuadé que la disette était très grande à Millet et que le peuple était réduit à la dernière extrémité. Il fut bien surpris au retour du héros d'apprendre le contraire. Quelque temps après, ces deux princes firent ensemble un traité dont les conditions furent qu'ils vivraient comme amis et alliés. Au lieu d'un temple, Aliate en fit bâtir deux à Minerve dans Assessos, et il recouvra la santé. C'est ainsi que les choses se passèrent dans la guerre qu'Aliate fit à Thrasybule et aux Milésiens. Ce Périandre, qui donna avis à Thrasybule de la réponse de l'oracle, était fils de Cypselus. Il régnait à Corinthe. Les habitants de cette ville racontent qu'il arriva de son temps une aventure très merveilleuse dont il fut témoin, et les lesbiens en conviennent aussi. Ils disent qu'Arion de Métimne, le plus habile joueur de cithare qui fut alors, et le premier, que je sache, qui ait fait et nommé le dit Tyrande et est exécuté à Corinthe, fut porté sur le dos d'un dauphin jusqu'au promontoire de Thénard. Ils assurent qu'Arion, ayant passé un temps considérable à la cour de Périandre, eut envie de naviguer en Sicile et en Italie. Ayant amassé dans ces pays de grands biens, il voulut retourner à Corinthe. Prêt à partir de Tarente, il loua un vaisseau corinthien parce qu'il se fiait plus à ce peuple qu'à tout autre. Lorsqu'il fut sur le vaisseau, les Corinthiens tramèrent sa perte et résolurent de le jeter à la mer pour s'emparer de ses richesses. Arion, s'étant aperçu de leur dessein, les leur offrit, les conjurant de lui laisser la vie. Mais, bien loin d'être touché par ses prières, ils lui ordonnèrent de se tuer lui-même s'il voulait être enterré ou de se jeter sur le champ dans la mer. Arion, réduit à une si fâcheuse extrémité, les supplia, puisqu'ils avaient résolu sa perte, de lui permettre de se revêtir de ses plus beaux habits et de chanter sur le tillac. Il leur promit de se tuer après qu'il aurait chanté. Ils présumèrent qu'ils auraient du plaisir à entendre le plus habile musicien qui existât, et dès lors, ils se retirèrent de la poupe au milieu du vaisseau. Arion se para de ses plus riches habits, prit sa cithare et monta sur le tillac, exécuta l'air ortien. Et dès qu'il l'eut fini, il se jeta à la mer avec ses habits et dans l'état où il se trouvait. Pendant que le vaisseau partait pour Corinthe, un dauphin reçut, à ce qu'on dit, Arion sur son dos et le porta à Thénard où, ayant mis pied à terre, il s'en alla à Corinthe, vêtu comme il était, et y raconta son aventure. Périandre, ne pouvant ajouter foi à son récit, le fit étroitement garder et porta son attention sur les matelots. Ils ne furent pas plus tôt arrivés que, les ayant envoyés chercher, il leur demanda s'ils pouvaient lui donner des nouvelles d'Arion. Ils lui répondirent qu'il l'avait laissé en bonne santé à Tarente, en Italie, où la fortune lui était favorable. Arion parut tout à coup devant eux, tel qu'ils l'avaient vu se précipiter à la mer. Déconcertés, convaincus, ils n'osèrent plus nier leur crime. Les Corinthiens et les Lesbiens racontent cette histoire de la sorte. Il envoie à Thénard une petite statue de bronze qui représente un homme sur un dauphin. C'est une offrande d'Arion. Aliate, roi de Lydie, mourut longtemps après avoir terminé la guerre de Millet. Il régna 57 ans. Il fut le second prince de la maison des Memnades, qui envoya des présents à Delphes. C'était dans l'action de grâce du recouvrement de sa santé. Il consistait en un grand cratère d'argent et une soucoupe damasquinée la plus précieuse de toutes les offrandes qui se voient à Delphes. C'est un ouvrage de Glaucus de Chios qui seul a inventé l'ère de la damasquinure. Aliade étant mort, Crésus, son fils, lui succéda à l'âge de 35 ans. Éphèse fut la première ville grecque que ce prince attaqua. Ses habitants, se voyant assiégés, consacrèrent leur ville à Diane, en joignant avec une corde leur muraille au temple de la déesse. Ce temple est éloigné de 7 stades de la vieille ville dont Crésus formait alors le siège. Après avoir fait la guerre aux Éphésiens, il la fit aux Ioniens et aux Éoliens, mais successivement, employant des raisons légitimes quand il en pouvait trouver, ou des prétextes frivoles à défaut de raison. Lorsqu'il eut subjugué les Grecs de l'Asie et qu'il les eut forcés à lui payer tribut, il pensa à équiper une flotte pour attaquer les Grecs insulaires. Tout était prêt pour la construction des vaisseaux lorsque Bias de Priène, ou, selon d'autres, Pittacus de Mytilène, vint à Sardes. Crésus lui ayant demandé s'il y avait en Grèce quelque chose de nouveau, sa réponse fit cesser les préparatifs. « Prince, lui dit-il, les insulaires achètent une grande quantité de chevaux dans le dessein de venir attaquer Sardes et de vous faire la guerre. » Crésus, croyant qu'il disait la vérité, repartit. « Puissent les dieux inspirer aux insulaires le dessein de venir attaquer les Lydiens avec de la cavalerie. Il me semble, seigneur, répliqua Bias, que vous désirez ardemment de les rencontrer à cheval dans le continent, et vos espérances sont fondées. Mais, depuis qu'ils ont appris que vous faisiez équiper une flotte pour les attaquer, pensez-vous qu'ils souhaitent autre chose que de surprendre les Lydiens en mer et de venger sur vous les Grecs du continent que vous avez réduits en esclavage ?» Crésus, charmé de cette réponse, qui lui parut très juste, abandonna son projet et fit alliance avec les Ioniens des îles. Quelque temps après, Crésus subjugua presque toutes les nations en deçà du fleuve Halice, excepté les Cyliciens et les Lyciens, savoir les Phrygiens, les Mysiens, les Mariandiniens, les Chalybes, les Paphlagoniens, les Thraces de l'Asie, c'est-à-dire les Tiniens et les Bithyniens, les Cariens, les Ioniens, les Doriens, les Éoliens et les Pamphyliens. Tant de conquêtes ajoutées au royaume de Lydie avaient rendu la ville de Sardes très florissante. Tous les sages qui étaient alors en Grèce s'y rendirent, chacun en son particulier. On y vit entre autres arriver Solon. Ce philosophe, ayant fait, à la prière des Athéniens ses compatriotes, un corps de loi, voyagea pendant 10 ans. Il s'embarqua sous prétexte d'examiner les mœurs et les usages des différentes nations. Mais, en effet, pour n'être point contraint d'abroger quelques-unes des lois qu'il avait établies. Car les Athéniens n'en avaient pas le pouvoir, s'étant engagés par des serments solennels à observer pendant 10 ans les règlements qu'il leur donnerait. Solon étant donc sorti d'Athènes par ce motif, et pour s'instruire des coutumes des peuples étrangers, alla d'abord en Égypte, à la cour d'Amasis, et de là à Sardes, à celle de Crésus, qui le reçut avec distinction et le logea dans son palais. 3 ou 4 jours après son arrivée, il fut conduit par ordre du prince dans les trésors dont on lui montra toutes les richesses. Quand Solon les eut vus et suffisamment considérés, le roi lui parla en ces termes. « Le bruit de votre sagesse et de vos voyages est venu jusqu'à nous, et je n'ignore point qu'en parcourant tant de pays, vous n'avez eu d'autre but que de vous instruire de leurs lois et de leurs usages, et de perfectionner vos connaissances. Je désire savoir quel est l'homme le plus heureux que vous ayez vu. » Il lui faisait cette question parce qu'il se croyait lui-même le plus heureux de tous les hommes. « C'est Télus d'Athènes, lui dit Solon sans le flatter et sans lui déguiser la vérité. » Crésus, étonné de cette réponse, « Sur quoi donc, lui demanda-t-il avec vivacité, estimez-vous Télus si heureux ?»« Parce qu'il a vécu dans une vie florissante, reprit Solon, qu'il a eu des enfants beaux et vertueux, que chacun d'eux lui a donné des petits-fils qui tous y ont survécu, et qu'enfin, après avoir joui d'une fortune considérable relativement à celle de notre pays, il a terminé ses jours d'une manière éclatante. Car, dans un combat des Athéniens contre leurs voisins à Élosis, il secourut les premiers, mit en fuite les ennemis et mourut glorieusement. Les Athéniens lui érigèrent un monument aux frais du public dans l'endroit même où il était tombé mort et lui rendirent de grands honneurs. Tout ce que Solon venait de dire sur la félicité de Télus excita Crésus à lui demander quel était celui qu'il estimait, après cet Athénien, le plus heureux des hommes, ne doutant point que la seconde place ne lui appartint. « Cléobis et Biton, répondit Solon. Ils étaient argiens et jouissaient d'un bien honnête. Ils étaient en outre cela si fort qu'ils avaient tous deux également remporté des prix aux jeux publics. On raconte d'eux aussi le trait suivant. Les Argiens célébraient une fête en l'honneur de Junon. Il fallait absolument que leur mère se rendît au temple sur un char traîné par un couple de bœufs. Comme le temps de la cérémonie pressait et qu'il ne permettait pas à ces jeunes gens d'aller chercher leurs bœufs, qui n'étaient point encore revenus des champs, ils se mirent eux-mêmes sous le joug, et tirant le char sur lequel leur mère était montée, Ils le conduisirent ainsi 45 stades jusqu'au temple de la déesse. Après cette action dont toute l'assemblée fut témoin, ils terminèrent leur jour de la manière la plus heureuse, et la divinité fit voir par cet événement qu'il est plus avantageux à l'homme de mourir que de vivre. Les Argiens, assemblés autour de ces deux jeunes gens, louaient leur bon naturel, et les Argiennes félicitaient la prêtresse d'avoir de tels enfants. Celle-ci, comblée de joie et de l'action et des louanges qu'on lui donnait, debout au pied de la statue, pria la déesse d'accorder à ses deux fils, Cléobis et Biton, le plus grand bonheur que put obtenir un mortel. Cette prière finie, après le sacrifice et le festin ordinaire dans ces sortes de fêtes, les deux jeunes gens, s'étant endormis dans le temple même, ne se réveillèrent plus et terminèrent ainsi leur vie. Les Argiens, les regardant comme deux personnages distingués, firent faire leur statue et les envoyèrent au temple de Delphes. Selon accordé par ce discours, le second rang à Cléobis et Biton. « Athéniens !» répliqua Crésus en colère. « Faites-vous donc si peu de cas de ma félicité que vous me jugez indigne d'être comparé avec les hommes privés ?»« Seigneur, reprit Solon, vous me demandez ce que je pense de la vie humaine. Ai-je donc pu vous répondre autrement, moi qui sais que la divinité est jalouse du bonheur des humains et qu'elle se plaît à la troubler ?» Car, dans une longue carrière, on voit et on souffre bien des choses fâcheuses. Je donne à un homme 70 ans pour le plus long terme de sa vie. Ces 70 ans font 25 200 jours en omettant les mois intercalaires. Mais si chaque sixième année, on ajoute un mois, afin que les saisons se retrouvent précisément au temps où elles doivent arriver, dans les 70 ans, vous aurez 12 mois intercalaires, moins la troisième partie d'un mois qui feront 350 jours, lesquels, ajoutés à 25 200, donneront 25 550 jours. Or, de ces 25 550 jours qui font 70 ans, vous n'en trouverez pas un qui amène un événement absolument semblable. Il faut donc en convenir, Seigneur, l'homme n'est que vicissitude. Vous avez certainement les richesses considérables et vous régnez sur un peuple nombreux. Mais je ne puis répondre à votre question que je ne sache si vous avez fini vos jours dans la prospérité. Car l'homme, comblé de richesses, n'est pas plus heureux que celui qui n'a que le simple nécessaire, à moins que la fortune ne l'accompagne, et que, jouissant de toutes sortes de biens, il ne termine heureusement sa carrière. Rien de plus commun que le malheur dans l'opulence et le bonheur dans la médiocrité. Un homme puissamment riche mais malheureux n'a que deux avantages sur celui qui a du bonheur. Mais celui-ci en a un grand nombre sur le riche malheureux. L'homme riche est plus en état de contenter ses désirs et de supporter de grandes pertes. Mais si l'autre ne peut soutenir de grandes pertes ni satisfaire ses désirs, son bonheur le met à couvert des uns et des autres. Et en cela, il l'emporte sur le riche. D'ailleurs, il a l'usage de tous ses membres, il jouit d'une bonne santé, il n'éprouve aucun malheur, il est beau et heureux en enfant. Si à tous ces avantages, vous ajoutez celui d'une belle mort, c'est cet homme-là que vous cherchez, c'est lui qui mérite d'être appelé heureux. Mais avant sa mort, suspendez votre jugement, ne lui donnez point ce nom, dites seulement qu'il est fortuné. Il est impossible qu'un homme réunisse tous ses avantages, de même qu'il n'y a point de pays qui ne suffise et qui renferme tous les biens. Car si un pays en a quelques-uns, il est privé de quelques autres. Le meilleur est celui qui en a le plus. Il en est ainsi de l'homme. Il n'y en a pas un qui se suffise à lui-même. S'il possède quelques avantages, d'autres lui manquent. Celui qui en réunit un plus grand nombre, qui les conserve jusqu'à la fin de ses jours et sort ensuite tranquillement de cette vie, celui-là, Seigneur, mérite à mon avis d'être appelé heureux. Il faut considérer la fin de toute chose et voir quelle en sera l'issue. Car il arrive que Dieu, après avoir fait entrevoir la félicité à quelques hommes, la détruit souvent radicalement. Ainsi parla Solon. Il n'avait rien dit d'agréable à Crésus et ne lui avait pas témoigné la moindre estime. Aussi fut-il renvoyé de la cour. Il est probable qu'on traita de grossier un homme qui, sans égard au bien présent, voulait qu'en tout on envisageât la fin. Après le départ de Solon, la vengeance des dieux éclata d'une manière terrible sur Crésus. En punition, comme on peut le conjecturer, de ce qu'il s'estimait le plus heureux de tous les hommes. Un songe, qu'il eut aussitôt après, lui annonça les malheurs dont un de ses fils était menacé. Il en avait deux. L'un, affligé d'une disgrâce naturelle, il était muet. L'autre, surpassé en tous les jeunes gens de son âge, il se nommait Atys. C'est donc cet Atys que le songe indiqua à Crésus comme devant périr d'une arme de fer. Le roi réfléchit à son réveil sur ce songe. Tremblant pour son fils, il lui choisit une épouse et l'éloigna des armées à la tête desquelles il avait coutume de l'envoyer. Il fit aussi enlever les dards, les piques et toutes sortes d'armes offensives dont on fait usage à la guerre, des appartements des hommes où elles étaient suspendues et les fit entasser dans des magasins de peur qu'il n'en tombât quelqu'une sur son fils. Pendant que Crésus était occupé des noces de ce jeune prince, arriva Sardes, un malheureux dont les mains étaient impures. Cet homme était phrygien et issu du sang royal. Arrivé au pays, il pria Crésus de le purifier suivant les lois du pays. Ce prince le purifia. Les expiations chez les Lydiens ressemblent beaucoup à celles qui sont usitées en Grèce. Après la cérémonie, Crésus voulut savoir d'où il venait et qui il était. « Étranger, lui dit-il, qui êtes-vous? De quel canton de Phrygie êtes-vous venu à ma cour comme suppliant? Quel homme, quelle femme avez-vous tué? Seigneur, je suis fils de Gordius et petit-fils de Midas. Je m'appelle Adraste. J'ai tué mon frère sans le vouloir. Chassé par mon père et dépouillé de tout, je suis venu chercher ici un asile. Vous sortez, reprit Crésus, d'une maison que j'aime. Vous êtes chez des amis. Rien ne vous manquera dans mon palais tant que vous jugerez à propos d'y rester. En supportant légèrement ce malheur, vous ferez un gain considérable. » Adraste vécut dans le palais de Crésus. Dans ce même temps, il parut en Mysie un sanglier d'une grosseur énorme, qui, descendant du mont Olympe, faisait un grand dégât dans les campagnes. Les Mysiens l'avaient attaqué à diverses reprises, mais il ne lui avait fait aucun mal et il en avait fait beaucoup. Enfin, ils s'adressèrent à Crésus. « Seigneur, lui dirent leurs députés, il a paru sur nos terres un effroyable sanglier qui ravage nos campagnes. Malgré nos efforts, nous n'avons pu nous en défaire. Nous vous supplions donc d'envoyer avec nous le prince, votre fils, à la tête d'une troupe de jeunes gens choisis, et votre meute, afin d'en purger le pays. » Crésus, se rappelant le songe qu'il avait eu, leur répondit « Ne me parlez pas davantage de mon fils, je ne puis l'envoyer avec vous. Nouvellement marié, il n'est maintenant occupé que de ses amours. Mais je vous donnerai mon équipage de chasse avec l'élite de la jeunesse lydienne à qui je recommanderai de s'employer avec ardeur pour vous délivrer de ce sanglier. » Les Mysiens furent très contents de cette réponse, mais Attis, qui avait entendu leur demande et le refus qu'avait fait Crésus de l'envoyer avec eux, entra sur ses entrefaites et s'adressant à ce prince. « Mon père, lui dit-il, les actions les plus nobles et les plus généreuses m'étaient autrefois permises. Je pouvais m'illustrer à la guerre et à la chasse. Mais vous m'éloignez aujourd'hui de l'une et de l'autre. Quoique vous n'ayez remarqué en moi ni lâcheté ni faiblesse. Quand j'irai à la place publique ou que j'en reviendrai, de quel œil me verra-t-on? Quelle opinion auront de moi nos concitoyens? Quelle idée en aura la jeune princesse que je viens d'épouser? À quel homme se croira-t-elle unie? Permettez-moi donc, Seigneur, d'aller à cette chasse avec les Mysiens. Ou persuadez-moi par vos discours que les choses faites comme vous le voulez sont mieux. Mon fils, reprit Crésus, si je vous empêche d'aller à cette chasse, ce n'est pas que j'ai remarqué dans votre conduite la moindre lâcheté ou quelque autre chose qui m'ait déplu. Mais une vision que j'ai eue en songe pendant mon sommeil m'a fait connaître que vous aviez peu de temps à vivre et que vous deviez périr d'une arme de fer. C'est uniquement à cause de ce songe que je me suis pressé de vous marier. C'est pour cela que je ne vous envoie pas à cette expédition et que je prends toutes sortes de précautions pour vous dérober, du moins pendant ma vie, au malheur qui vous menace. Je n'ai que vous d'enfant, car mon autre fils, disgracié de la nature, n'existe plus pour moi. Mon père, répliqua le jeune prince, après un pareil songe, le soin avec lequel vous me gardez est bien excusable. Mais il me semble que vous ne saisissez pas le sens de cette vision. Puisque vous vous y êtes trompé, je dois vous l'expliquer. Ce songe, dites-vous, vous a fait connaître que je devais périr d'une arme de fer. Mais un sanglier a-t-il des mains? Est-il armé de ce fer aigu que vous craignez? Si votre songe vous eût appris que je dusse mourir d'une défense de sanglier ou de quelque autre manière semblable, il vous faudrait faire ce que vous faites. Mais il n'est question que d'une pointe de fer. Puis donc que ce ne sont pas des hommes que j'ai à combattre, laissez-moi partir. Mon fils, répond Crésus, « votre interprétation est plus juste que la mienne. Et puisque vous m'avez vaincu, je change de sentiment. La chasse que vous désirez vous est permise. » En même temps, il mande le phrygien Adraste et lui dit « Vous étiez sur les coups du malheur, Adraste. Me préserve le ciel de vous le reprocher. Je vous ai purifié. Je vous ai reçu dans mon palais où je pourvois à tous vos besoins. Prévenu par mes bienfaits, vous me devez quelques retours. Mon fils part pour la chasse. Je vous confie la garde de sa personne. » Préservez-le des brigands qui pourraient vous attaquer sur la route. D'ailleurs, il vous importe de rechercher les occasions de vous signaler. Vos pères vous l'ont enseigné, la vigueur de votre âge vous le permet. Seigneur, répondit Adraste, sans un pareil motif, je n'irai point à ce combat. Au comble du malheur, me mêler à des hommes de mon âge et plus heureux, cela n'est pas juste, et je n'en ai pas la volonté. Souvent, je m'en suis abstenu, mais vous le désirez, il faut vous obliger. Il faut reconnaître vos bienfaits, je suis prêt à obéir. Soyez sûr que votre fils, confié à ma garde, reviendra sain et sauf, autant qu'il dépendra de son gardien. » Le prince Attis et lui partirent après cette réponse avec une troupe de jeunes gens d'élite et la meute du roi. Arrivés au mont Olympe, on cherche le sanglier, on le trouve, on l'environne, on lance sur lui des traits. Alors cet étranger, cet adraste, purifié d'un meurtre, lance un javelot, manque le sanglier et frappe le fils de Crésus. Ainsi le jeune prince fut percé d'un fer aigu. Ainsi fut accompli le songe du roi. Aussitôt, un courrier dépêché à Sardes apprit au roi la nouvelle du combat et le sort de son fils. Crésus, troublé de sa mort, la ressentit d'autant plus vivement qu'il avait lui-même purifié d'un homicide celui qui en était l'auteur. S'abandonnant à toute sa douleur, il invoquait Jupiter expiateur, le prenait à témoin du mal que lui avait fait cet étranger. Il l'invoquait encore comme protecteur de l'hospitalité et de l'amitié, comme protecteur de l'hospitalité parce qu'en donnant à cet étranger une retraite dans son palais, il avait nourri, sans le savoir, le meurtrier de son fils, comme dieu de l'amitié parce qu'ayant chargé Adraste de le garde de son fils, il avait trouvé en lui son plus cruel ennemi. Quelque temps après, les Lydiens arrivèrent avec le corps d'Attis suivi du meurtrier. Adraste, debout devant le cadavre, les mains étendues vers Crésus, le conjure de l'immoler sur son fils. La vie lui étant devenue odieuse depuis qu'à son premier crime, il en a ajouté un second, en tuant celui qu'il avait purifié. Quoique accablé de douleur, Crésus ne put entendre les discours de cet étranger sans être ému de compassion. « Adraste, lui dit-il, en vous condamnant vous-même à la mort, vous satisfaites pleinement ma vengeance. Vous n'êtes pas l'auteur de ce meurtre, puisqu'il est involontaire. Je n'en accuse que celui des dieux qui me l'a prédit. » Crésus rendit les derniers devoirs à son fils et ordonna qu'on lui fît des funérailles convenables à son rang. La cérémonie achevée et le silence régnant autour du monument, cet Adraste, fils de Gordius, petit-fils de Midas qui avait été le meurtrier de son propre frère, le meurtrier de celui qu'il avait purifié, sentant qu'il était le plus malheureux de tous les hommes, se tua sur le tombeau d'Attis. Crésus pleura 2 ans à la mort de son fils, mais l'empire d'Astyage, fils de Cyaxare, détruit par Cyrus, fils de Cambyse et celui des Perses, qui prenait de jour en jour de nouveaux accroissements, lui firent mettre un terme à sa douleur. Il ne pensa plus qu'au moyen de réprimer cette puissance avant qu'elle devint plus formidable. Tout occupé de cette pensée, il résolut, sur le champ, d'éprouver les oracles de la Grèce et l'oracle de la Libye. Il envoya des députés en divers endroits, les uns à Delphes, les autres à Abe en Phocie, les autres à Dodone, quelques-uns à l'oracle d'Amphiaraüs, à l'antre de Trophonias et aux Branchides dans la Milésie. Voilà les oracles de Grèce que Crésus fit consulter. Il en dépêcha aussi en Libye, au temple de Jupiter Ammon. Ce prince n'envoya ses députés que pour éprouver ses oracles. Et au cas qu'ils rendissent des réponses conformes à la vérité, il se proposait de les consulter une seconde fois pour savoir s'ils devaient faire la guerre aux Perses. Il donna ordre aux députés qu'il envoyait pour sonder les oracles de les consulter le 100e jour à compter de leur départ de Sardes, de leur demander ce que Crésus, fils d'Alia, roi de Lydie, faisait ce jour-là, et de lui rapporter, par écrit, la réponse de chaque oracle. On ne connaît que la réponse de l'oracle de Delphes, et l'on ignore quelle fut celle des autres oracles. Aussitôt que les Lydiens furent entrés dans le temple pour consulter le dieu et qu'ils eurent interrogé à Pythie sur ce qui leur avait été prescrit, elle leur répondit ainsi en vers hexamètre. « Je connais le nombre des grains de sable et les bornes de la mer. Je comprends le langage du muet. J'entends la voix de celui qui ne parle point. Mes sens sont frappés de l'odeur d'une tortue qu'on fait cuire avec de la chair d'agneau dans une chaudière d'airain dont le couvercle est aussi d'airain. » Les Lydiens, ayant mis par écrit cette réponse de la Pythie, partirent de Delphes et revinrent à Sardes. Quand les autres députés, envoyés en divers pays, furent aussi de retour avec les réponses des oracles, Crésus les ouvrit et l'examina chacune en particulier. Il y en eut sans doute qu'il n'approuva point, mais dès qu'il eut entendu celle de l'oracle de Delphes, il la reconnut pour vraie et l'adora, persuadé que cet oracle était la seule véritable, comme étant le seul qui eût découvert ce qu'il faisait. En effet, après le départ des députés qui allaient consulter les oracles au jour convenu, voici ce dont il s'était avisé. Il avait imaginé la chose la plus impossible à deviner et à connaître. Ayant lui-même coupé par morceaux une tortue et un agneau, il les avait fait cuire ensemble dans un vase d'airain dont le couvercle était de même métal. Telle fut la réponse de Delphes. Quant à celle que reçurent les Lydiens dans le temple d'Amphiaraüs après les cérémonies et les sacrifices prescrits par les lois, Je n'en puis rien dire. On sait uniquement que Crésus reconnut aussi la vérité de cet oracle. Ce prince tâcha ensuite de se rendre propice le dieu de Delphes par de somptueux sacrifices, dans lesquels on immola 3000 victimes de toutes les espèces d'animaux qu'il est permis d'offrir au dieu. Il fit ensuite brûler sur un grand bûcher des lits dorés et argentés, des vases d'or, des robes de pourpre et autres vêtements, s'imaginant par cette profusion se rendre le dieu plus favorable. Il enjoignit aussi aux Lydiens d'immoler au dieu toutes les victimes que chacun aurait en sa puissance. Ayant fait fondre après ce sacrifice une prodigieuse quantité d'or, il en fit faire 117 demi-plaintes, dont les plus longues avaient 6 palmes et les plus petites 3 sur une d'épaisseur. Il y en avait 4 d'or fin du poids d'un talent et demi. Les autres étaient d'un or pâle et pesaient 2 talents. Il fit faire aussi un lion d'or fin du poids de 10 talents. On le plaça sur ses demi-plaintes, mais il tomba lorsque le temple de Delphes fut brûlé. Il est maintenant dans le trésor des Corinthiens. Il ne pèse plus que 6 talents et demi parce que dans l'incendie du temple, il s'en fondit 3 talents et demi. Ses ouvrages achevés, Crésus les envoya à Delphes avec beaucoup d'autres présents, 2 cratères extrêmement grands, l'un d'or et l'autre d'argent. Le premier était à droite en entrant dans le temple et le second à gauche. On les transporta aussi d'ailleurs lors de l'incendie du temple. Le cratère d'or est aujourd'hui dans le trésor des Clazoméniens. Il pèse 8 talents et demi et 12 mines. Celui d'argent est dans l'angle du vestibule du temple. Il tient 600 amphores. Les Delphiens y mêlent l'eau avec le vin au fait appelé Théophanie. Ils disent que c'est un ouvrage de Théodore de Samos, et je le crois d'autant plus volontiers que cette pièce me paraît d'un travail exquis. Le même prince y envoya aussi 4 muits d'argent qui sont dans le trésor des Corinthiens. 2 bassins pour l'eau lustrale, dont l'un est d'or et l'autre d'argent. Sur celui d'or est gravé le nom des Lacédémoniens et ils prétendent avoir fait cette offrande, mais à tort. Il est certain que c'est aussi un présent de Crésus. Un habitant de Delphes y a mis cette inscription pour flatter les Lacédémoniens. J'enterrai le nom, quoique je le sache fort bien. Il est vrai qu'ils ont donné l'enfant à travers la main duquel l'eau coule et se répand, mais ils n'ont fait présent ni de l'un ni de l'autre de ces 2 bassins. À ces dons, Crésus en ajouta plusieurs autres de moindre prix. Par exemple, des plats d'argent de forme ronde et une statue d'or de 3 coudées de haut représentant une femme. Les Delphiens disent que c'est celle de sa boulangère. Il y fit aussi porter des colliers et des ceintures de la reine, sa femme. Tels sont les présents qu'il fit à Delphes.